Le paddock RMC, Louis Gerbier.
Good evening, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du paddock RMC, le warm-up du GP de Belgique. On va parler des enjeux du plus beau circuit du monde, certes, mais on va bien évidemment parler de toutes les folies en coulisses. On va même commencer par cela. Notre équipe de folie, les amis, je vous la présente, avec une nouvelle ingénieure dans le paddock, Anne Fleurchet. C'est beau virage sur Twitter, allez la follow, salut Anne Fleur.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Eh ben on va plutôt pas mal. Et selon ton dernier tweet, ou un de tes derniers tweets en tout cas, tu serais fan de Gabriel Bortoleto.
Ah, j'aime beaucoup Gabriel Bortoleto, mais c'est vrai que si je dois être honnête, mon computer n'est pas excessivement à jour. Je suis plus active sur Insta et TikTok. Et du coup, ceux qui me suivent savent que pour moi, c'est Verstappen avant tout.
Ouais, mais Verstappen, je trouvais ça un peu trop mainstream, tu vois. Je suis allé chercher un truc un peu plus croustifondant.
Mais Bortoleto, oui, gros cœur sur lui.
Eh ben c'est super, bienvenue à toi en tout cas, Tristan Van de Driche. Salut Tristan.
Bonjour.
La forme ? Oh, excellent, jamais peur de rien. Et le comeback d'Arnaud Valadon dans le paddock, comment ça va Arnaud ?
Ça va, salut à tous, moi je suis grand fan de Colapinto.
Eh oui, de plus en plus.
Ça c'est pas mainstream.
Non mais c'est notre petite pensée hebdomadaire à Nico qui se repose. Bon allez les amis, je vous donne le sommaire tout de suite. On va parler évidemment de Horner qui est mis à la porte de Red Bull. Il est remplacé par Laurent Mekies, l'ancien numéro 2 de Ferrari, puis team principal de Racing Bull depuis un an et demi maintenant. Ensuite on parlera de l'avenir de Verstappen chez Mercedes. Est-ce qu'il va y aller ? Il en est où Max ? Il va prendre une décision un jour ? Où tu sors, où je te sors, il va falloir prendre une décision. On se projettera sur la grille de l'an prochain, qui est en train de se dessiner justement. Et puis enfin, on s'intéressera au Grand Prix du week-end, le fameux circuit de Spa. Son circuit, ses virages mythiques et ses enjeux pour ces deux jours. On finira comme tous les warm-up par un petit point sur les Français et vos pronos. Allez les amis, le tour de chauffe du débrief du Grand Prix de Belgique est terminé. Les gommes sont à température, éteignez les feux, c'est parti. Bon alors on s'est retrouvé l'autre jour avec un tremblement de terre, un nouveau dans cette saison, c'est Horner mis à la porte, le monsieur Red Bull qui était là depuis le début, un des plus jeunes, voire le plus jeune team principal à l'époque mis en place sur la grille. Il a fait une carrière incroyable, il a ramené beaucoup de titres avec principalement Sebastian Vettel et Max Verstappen, le héros de Dan Fleur. Et... c'est un petit peu abrupt quand même, Arnaud, là, ce limogeage. C'est dur ?
C'est dur, même si il y a un an, il avait quand même déjà chaud aux fesses avec ses enquêtes pour des soupçons de harcèlement. On savait quand même que le siège était plus ou moins éjectable. Alors, il y avait moins de bruit récemment, si ce n'est qu'on savait que les tensions entre le clan Verstappen, à la fois le papa Joss et Raymond Vermeulen, le manager de Max, étaient toujours aussi présentes. Plus vous rajoutez des clans aussi à Red Bull, plus pro Horner, plus pro Max, etc. Donc c'est à la fois surprenant, c'est peut-être aussi le timing, parce que voilà, on parle d'une clause de Max pour sortir de son contrat, et là, quelques semaines avant, c'est Christian Horner qui part. Donc c'était un petit peu le résumé de ces 18 mois. Qui va gagner entre le clan Horner et le clan Verstappen ? On a peut-être la réponse aujourd'hui.
Eh ouais, je crois qu'on a la réponse puisqu'il est dehors, le pauvre ami. Mais Anne Fleur, moi, on s'est tous posé une question en tant que fan de Formule 1 en voyant cette nouvelle. On se disait tous donc pourquoi la décision a été prise si vite. Et deux hypothèses émergeaient finalement. C'est celle où Horner, il fallait le virer pour garder Verstappen, ou alors il était viré parce qu'il avait déjà perdu Verstappen. Quel est, toi, ton sentiment là-dessus ?
Moi, personnellement, je pense pour la première option. Où, dans tous les cas, Red Bull, Verstappen est le projet de Red Bull depuis bientôt 10 ans. Donc, il y avait vraiment intérêt à ce que Verstappen reste. Mais, et en gros, je pense qu'il y a eu, pas mal de rumeurs déjà autour du budget 2025 et aussi de l'avancée 2026, où il y a eu des grosses rumeurs où il s'était dit « on lâche tout 2026 et on fait tout pour construire une voiture pour 2025 pour Verstappen ». Ça a été que des rumeurs, mais je pense qu'il a fumé sans feu dans ce genre d'incident. Donc pour moi, c'est Verstappen qui a dit « je reste, ok, Horner part ». Je ne vois pas d'autre option. Et en même temps, Verstappen a toujours dit qu'il était plus du côté d'Helmut Marko. Il a dit que son destin était lié à celui d'Helmut Marko, que si Marko partait de Red Bull, il partirait aussi. Donc finalement, ça coule un peu de sens, finalement, que Horner parte. Il n'y a plus trop d'histoires d'harcèlement, d'enquête et tout ça. On repart un petit peu à zéro avec cette fois-ci Laurent Méquies. À voir.
Pour toi, Tristan, tu es du même avis qu'Anne Fleur ou pas?
Je pense pas, honnêtement. Je pense que Red Bull a commencé, voilà, dès Spa, ils ont dit, enfin, avant de commencer Spa, ils ont dit, allez, carte blanche, on recommence tout. 2026, c'est une nouvelle année. 2026, on va tout changer. Là, aujourd'hui, Max Verstappen disait encore en conférence de presse que son choix ne dépendait en aucun cas de Christian Horner, du fait qu'il soit parti ou qu'il, même s'il restait, avance pas. Ça n'aurait absolument rien changé, donc encore une fois c'est de la communication, mais je pense que Red Bull, parce qu'il n'y a pas uniquement Christian Horner qui a été démis de ses fonctions précises, il y a eu aussi des personnes à la communication, des personnes au marketing, etc., qui ont suivi le départ de Christian Horner. Donc je pense que Red Bull a vraiment décidé, avec les actionnaires thaïlandais notamment, de dire bah voilà, on arrête l'hémorragie Horner. Il nous a ramené beaucoup de titres, mais aussi beaucoup de drama entre guillemets depuis 2024, donc voilà, 20 ans, c'est un cycle, mais il faut aussi tourner la page à un moment, et je pense que c'est vraiment ce que Red Bull a choisi de faire et d'amorcer ce début de Laurent Méquies avant ce changement de réglementation, pour qu'il puisse s'habituer vraiment à la façon dont l'équipe travaille.
C'est vrai qu'on était sur des luttes en très très haute sphère, puisqu'on parlait du copropriétaire thaïlandais de Red Bull, et d'un autre côté, tu avais le clan qui a hérité en quelque sorte de Matesic, un des cofondateurs de Red Bull, avec Oliver Minslaff, et on se disait, les Thaïlandais sont plutôt pour garder Horner, et le clan Minslaff plutôt pro Verstappen, et finalement on est arrivé quelque part à une décision, je ne sais pas logique, mais qui semblait quand même irrémédiable, parce qu'on voyait que de plus en plus, il ne pouvait plus y avoir de cohabitation, encore plus dans ce contexte d'une voiture qui n'est plus la numéro 1.
Oui, et puis ce que tu disais, c'est qu'à l'aube d'une nouvelle réglementation, finalement, c'était un peu faire une pierre deux coups et remettre à plat en amont. Donc la décision a été prise de finalement faire monter le team principal de l'écurie petite sœur Racing Bull, Laurent Méquies. Laurent Méquies, on le connaît bien, nous, déjà, parce qu'il est français. Ça aide.
Parce qu'il était chez Ferrari, tu veux dire ?
Parce qu'il était chez Ferrari aussi. Parce que aussi, il a un look. Il a un look avec ses cheveux longs, ses lunettes, sa moustache, c'est ça. Il a un côté d'Artagnan. Nous, grâce au diffuseur Canal+, on l'a eu aussi récemment dans les ordres. Vous savez, maintenant, ils sont en direct tout le week-end. Et il avait joué le jeu. Et j'avais trouvé ça vraiment sympa comme séquence. Il aura peut-être...
Peut-être plus compliqué, voilà, de l'avoir, ouais, dans les ordres.
J'étais pas sûr que t'allais le suivre chez Red Bull, ce genre de...
J'espère que vous en avez profité, parce que...
Bonjour, c'est Julien Frévaux. Alors Laurent, quelle est la stratégie avec Max Verstappen, là?
il se barre chez Merco, ou c'est comment? Ouais, ça va peut-être être un peu plus compliqué, mais voilà, on est quand même sur une carrière, d'une belle
carrière. Ça fait beaucoup de teams principales françaises, hein, on est pas mal. Hein.
Bah ouais, ça fait déjà...
Ça va mieux que les écuries.
Ouais, ça va clairement mieux que les écuries, et surtout ça va pouvoir.
C'est difficile de faire pire en même temps.
Ouais, ça va peut-être aussi pouvoir donner un petit côté pas plus sympathique, mais plus proche de nous aussi sur Red Bull, qui était une écurie quand même où il y a depuis Pierre, il y avait pas. Si on a Pierre Vacher quand même dans l'équipe pour vraiment pour les connaisseurs, mais c'est pas, on va dire, c'est pas une figure que tout le monde connaît, on va dire, chez les fans de F1. Donc de ce plan-là, c'est intéressant, mais surtout pour l'écurie, qu'est-ce que ça va pouvoir amener? Tristan, toi, tu penses quoi de cette nouvelle nomination?
C'est une nouvelle nomination qui est bien, dans un sens où je pense que Red Bull avait besoin de changement dans sa façon de travailler aussi, parce que par son expérience, Laurent Méquies, quand il était chez Racing Bull, il était en Italie, quand il était chez Ferrari, il était en Italie, donc il a une vision forcément différente de comment on gère une écurie. Est-ce que ça va être la bonne? On verra à l'avenir. Mais en tout cas, il va apporter ce côté premièrement plus latin par le fait qu'il est français et qu'il a travaillé beaucoup en Italie. Il a aussi travaillé à la FIA, donc c'est aussi intéressant d'avoir quelqu'un qui a travaillé à la FIA dans ses rangs. Après, est-ce qu'on va avoir une énorme différence à ce niveau-là? Je sais pas, et je pense que c'est trop tôt pour le savoir. Laurent Méquies, c'est quelqu'un qui est au final assez discret, même s'il nous offre souvent, on l'a vu avec Canal+, pas mal d'informations. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans la discrétion. Je pense que ça va être beaucoup plus réservé que ce que Christian Horner nous offrait, parce qu'il avait rarement sa langue dans sa poche. En tout cas, je pense que ça peut faire du bien, notamment à un certain Yuki Tsunoda, peut-être, d'avoir plus ce côté où il y a de la pression de la part des deux, Helmut Marko et Christian Horner. Là, on aura peut-être plus la pression simplement de Helmut Marko et probablement un team principal qui soutient plus ses pilotes que Christian Horner, qui avait souvent... un mot oui, je te soutiens, on se souvient de Pierre Gasly, et puis au final il l'appelle pendant ses vacances, et puis non, en fait, allez, voilà, non, ciao.
Clairement, donc, voilà. Et ce que tu, comme tu le dis, c'est clair que Laurent Méquies va avoir de ce niveau-là une grosse différence. En plus, quand tu parlais de Yuki Tsunoda, c'est qu'ils ont déjà travaillé ensemble.
Oui, donc ils se connaissent bien aussi. Ouais.
Ça peut aussi permettre à Yuki, un petit aparté, de sortir un peu de... Parce que depuis qu'il est arrivé chez Red Bull, on va pas se mentir, c'est la catastrophe.
Je me marrais quand Tristan faisait référence au passé de la FIA de Laurent Méquies. C'est vrai que chez Red Bull, ça aide d'avoir quelqu'un de la FIA pour être champion du monde.
Hein. Elle était facile, ouais. Celle-là. Elle était facile.
Mais j'aime toujours la ressortir.
Bon ben, juste avant de vous donner la parole, on va prendre le pouls un peu du paddock avec un son de Pierre Gasly au sujet de ce départ un peu surprise malgré tout quand même de Christian Horner.
Oui, c'est sûr qu'il y avait énormément de bruit. Je pense qu'il faut se rappeler de la carrière qu'il a pu faire pendant 20 ans et tout ce qu'il a pu importer. Il était là depuis le premier jour de Red Bull quand ils sont arrivés. 20 ans à la tête de cette écurie, des nombreux titres mondiaux, que ça soit pilote ou équipe. Donc je pense que c'est principalement ce qu'il faut se rappeler de toute sa carrière. Je pense que c'est un des teams principaux avec le plus de succès en F1. Donc voilà, moi j'ai pu travailler avec lui pendant 6 mois. J'étais forcément plus proche d'Helmut du fait que Helmut soit venu me chercher quand j'avais 17 ans. Et la relation était toujours un petit peu plus proche de Helmut, vu que c'est lui qui s'occupe des pilotes. Mais voilà, je souhaite tout le meilleur à Christian et je suis sûr qu'on le reverra dans le paddock.
Est-ce qu'on n'appellerait pas ça ne pas insulter l'avenir ? Je m'attendais.
J'ai vu Tristan se marrer, je veux pas le balancer. Surtout, j'étais plus proche d'Helmut.
Ouais, c'était une litote, comme on appelle.
Mais à cette époque-là, je pense qu'il était proche de personne, Pierre Gasly. Il faut pas faire de. Les amis à ces moments-là étaient peut-être plus des ennemis que réellement des amis. Mais non, ouais, c'est vrai que, en tout cas, cette déclaration, elle est assez intéressante parce que on pourrait comprendre d'un côté, comme tu l'évoques un petit peu, bah voilà, il prépare le terrain pour potentielle arrivée de Christian Horner, parce qu'on a eu des rumeurs comme quoi il pourrait reprendre l'écurie Alpine. Mais dans un autre sens, on a aussi l'impression, enfin moi je le vois aussi dans le sens où Pierre Gasly veut se fermer aucune porte, notamment la porte de chez Red Bull. Donc c'est pour ça aussi que envoyer un petit Helmut Marko, j'étais forcément plus proche de lui, c'est aussi dire bah voilà, Helmut, je suis toujours disponible sur le marché des transferts pour 2026 peut-être.
Anne Fleur, toi, t'en penses quoi des propos de Pierre? Est-ce que tu penses que ça a été écrit, ça a été préparé avec son agent pour justement fermer aucune porte et blesser personne?
Oui, je suis pas mal de la vie de Tristan. C'est clairement du politiquement correct. Hein. Je pense que si on demande réellement à Gasly ce qu'il pense de Horner, je pense qu'il n'a pas du tout les mêmes mots et les mêmes sentiments. Après, c'est vrai que Gasly, s'il peut revenir dans une top team, il le fera au vu de la position d'Alpine dans laquelle il est à l'heure actuelle. Après, moi, Laurent Méquet, je pense qu'il va ramener peut-être un peu d'humain et donc du coup peut-être fermer un peu moins de portes aux personnes chez Red Bull, dans le sens où quand Isaac Hadjar, il y avait des rumeurs chez Red Bull, on voulait en mode non, surtout pas, laissez-le dans la Racing Bulls, qu'il fasse un peu ses armes, et limite de le conseiller d'aller ailleurs parce que c'est un peu une prison finalement, Red Bull, surtout quand on est le second de Max. Donc peut-être que ça va ouvrir un peu plus d'humain dans cette écurie et relancer un peu les cartes pour 2026. Et après, si on peut avoir un Gasly en top team avec un Français qui brille, on prend, hein. Franchement, on prend. Hein.
Bah ouais, on prend.
Alors, deux trucs, parce qu'on ne peut pas passer à côté sur le départ d'Horner. La première goutte d'eau qui a commencé à faire déborder le vase, c'est le départ d'Adrian Newey. Ouais. Parce qu'on parle de la longévité de Christian Horner, plus de 20 ans à Red Bull. Adrian Newey, il est arrivé en 2005 aussi. Et quand on sait le savant qu'il est pour produire les meilleurs Formule 1, parce qu'il y en a deux qui ont fini quadruple championne du monde, t'as quand même ça. Et sur Gasly, ça me fait penser, ce que Anne Fleur disait, à une déclaration récente de Carlos Sainz qui n'a pas compris pourquoi on ne l'avait pas choisi pour être le deuxième baquet à côté de Max.
Notre ami Carlos, bah ouais, lui, il l'a mal vécu, hein, un petit peu quand même, hein, au bout d'un moment. Mais après, c'est à Williams, il est bien dedans.
Il est bien, mais s'il pouvait être mieux, ce serait encore mieux pour lui.
Après, est-ce que t'es mieux dans une Red Bull numéro 2 ou dans un Williams numéro 1 bis aujourd'hui?
Pareil, est-ce que le contrat il est mieux dans une Red Bull numéro 2 ou dans une Williams?
Ouais. Bah, c'est sûr, aujourd'hui, quand t'es Carlos, c'est pilotes, on va dire, qui ont le talent potentiel pour les top teams. mais qui sont un peu dans l'entre-deux. Gasly est un peu aussi là. T'es obligé un peu de faire des concessions sur une partie ou l'autre. Hein. C'est réservé vraiment.
Un peu comme Esteban Ocon en avant.
Oui, c'est même la majorité des pilotes. Tristan, je te voyais souhaiter intervenir.
Non, c'est simplement que le cas de Sainz au final avec Red Bull et ce qui se passe aussi avec Mercedes cette année, c'est assez typique de ce qui peut se passer en Formule 1. En fait, au moment où Sainz signe son contrat, on pense que c'est pas forcément une mauvaise opération parce qu'au final, on disait à l'époque que la grille était très ouverte, mais au final, elle n'était pas du tout ouverte et les baquets étaient très très contestés. Et là, on a l'impression, encore une fois, dans cette silly season, juste avant 2026, qu'il y a énormément d'opportunités et c'est raté. Carlos Sainz a signé son contrat.
Même si je trouve ça plus logique que Sainz ne soit pas allé dans le deuxième baquet Red Bull, parce que tu as besoin aussi dans ton académie de montrer qu'il y a une porte de sortie possible. Imagine si tu dis l'écurie numéro 1, les Liam Lawson, les Isaac Hadjar, tous ces joueurs qui sont sous contrat à l'académie, tous ces pilotes, ça sera pas pour vous. Non, et regarde ce qui s'est passé chez Alpine.
Et au final, quand on voit
même si ils voulaient le Gasly, mais
et de toute façon, quand on voit la performance de la deuxième Red Bull, j'ai peur que Carlos Sainz ait autant de mal. Alors peut-être un petit peu moins qu'un Yuki Tsunoda ou qu'un Liam Lawson. Honnêtement, pour lui, au final, ce mouvement chez Williams, même s'il n'est pas forcément exceptionnel, ça lui permet d'éviter d'avoir sa carrière terminée à 33 ans.
Puis ça coûte moins cher de jeter comme un Kleenex Liam Lawson qu'un Carlos Sainz.
Exactement.
C'est ça, c'est sûr. Allez, petit avis très rapide. Je vous fais le tour de table. Est-ce que on imagine un plan Gasly dans dans le deuxième baquet de la Red Bull en 2026, t'es pour Tristan ?
Pour oui.
Arnaud ?
Je suis pour, mais je pense pas que ça va se produire.
Oui, c'est juste savoir si idéalement.
On a envie de le voir. Je pense que c'est mieux d'être dans le deuxième baquet de la Red Bull qu'aujourd'hui chez Alpine où on sait pas où on va, quoi.
Et il a une telle revanche à prendre sur Red Bull que pour moi il ira dans un mindset totalement différent de quand il est arrivé en 2019 et qu'il peut faire de très très belles choses.
Et toi, Anne Fleur ?
Ouais, moi je suis pour. Si on peut le voir, je suis pour. Un team principal français et un pilote français, moi je suis pour.
Un directeur technique français en plus. On va vraiment, on va changer. Ça va être.
Ils vont mettre
pas le taureau rouge quoi.
Ils vont finir par mettre du vin dans les canettes.
Tu vas appeler ça le taureau rouge.
Ils auront plus d'attache à la France qu'Alpine.
C'est ça.
Vrai. Eh ben on va continuer puisque on est en train d'égrener un peu chaque salarié de Red Bull. On va continuer avec Max Verstappen. Max Verstappen, du coup, on en a parlé un petit peu, mais ça. Moi, j'ai la sensation, tu disais qu'il avait déclaré que l'avenir d'Horner n'avait aucun rapport avec le sien. Quand même, la sensation que les rumeurs s'atténuent un peu là sur son départ et que. On a vu l'histoire des jets privés qui sont allés
en
le
Sardaigne.
Même week-end en Sardaigne et que tout le monde était sur Flight Radar comme dans les grands moments de l'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain. Mais c'est peut-être tout simplement que les gens se sont remis au boulot, mais on a l'impression qu'il se passe plus grand-chose. Toi, Tristan, tu le sens comment, Max Verstappen, à l'année prochaine ? Tu le vois toujours chez Red Bull ?
Pour moi, il se passe plus grand-chose tout simplement parce que Toto Wolff a aussi eu des déclarations qui ont un petit peu fermé la porte à toutes ces choses-là. Récemment, il a encore dit qu'au final, son objectif principal, c'était d'avoir George Russell et Kimi Antonelli pour la saison prochaine. Après, il y a tellement de choses qui sont sorties aussi qu'au bout d'un moment, il faut bien que ça se calme parce que faire des titres sur des informations, au bout d'un moment, forcément, ça se limite. Donc non, moi je pense que la porte est toujours grande ouverte, que les deux doivent toujours être en discussion. Par contre, Toto Wolff, encore une fois, l'expliquait, selon lui, à Spa, il devrait savoir son line-up pour l'année 2026. Donc je pense qu'on se donne, faut pas oublier qu'il n'y a pas eu de F1 pendant 3 semaines, donc même s'ils sont peut-être vus en Sardaigne, au final, personne ne communique réellement entre eux. Donc peut-être que sur ce week-end, il va y avoir des rapprochements. Pour moi, Max Verstappen, il a envie de partir. Et en même temps, il a une grosse partie de lui-même qui a envie de rester chez Red Bull. Donc, c'est vraiment dur de savoir. Après, j'aimerais vraiment le voir chez Mercedes. Donc, pour moi, j'ai envie qu'il signe chez Mercedes. Et j'ai envie qu'il prenne un autre défi dans sa carrière pour vraiment passer à un niveau encore au-delà de ce qu'il est, qui est déjà exceptionnel actuellement.
Et est-ce que ça serait le moment de le faire, Arnaud ? Parce qu'il y a quand même une nouvelle réglementation, il y a le moteur Ford qui arrive, on ne sait pas ce qu'il vaut, c'est aussi des risques de rester chez là où il est finalement.
Moi, je pense que c'est plus prudent de se dire attendons l'année prochaine et le début pour voir en fait qui a la meilleure voiture. Parce que est-ce que tu as autant d'assurance que la Red Bull 2026 sera moins performante ou plus performante que la Mercedes ? Il y a quand même un flou chez tout le monde. Et quelque part dans ce jeu de chaise musicale, Toto Wolff, il est un peu dans une position tranquille. Parce qu'aujourd'hui, qui va aller chasser George Russell ? qui est un très bon pilote, mais en fait, quand tu regardes sur les baquets disponibles, qui peut aller chercher un George Russell ? En fait, personne. Donc Mercedes est quelque part en train de se dire, écoute, j'ai un George Russell qui, lui, est vraiment en fin de contrat, hein, qui est un bon, très bon pilote quand même. Je pense que tu peux être champion du monde avec un George Russell si tu as la voiture pour. C'est clair que si tu peux faire Max Verstappen, il ne faut pas s'en priver. Mais il est quand même dans une position assez royale où c'est plus George Russell qui, lui, est un peu les fesses entre deux chaises parce qu'il n'a pas forcément d'autres écuries pour dire « Regardez, je peux aller chercher ce contrat-là. » C'est un peu Mercedes ou rien pour lui aujourd'hui.
Il y a, je pensais, peut-être Cadillac, non ? Tu vois pas ?
C'est risqué. Hein,
il y a encore plus d'inconnus que de signer chez Red Bull, en fait.
Ouais, mais lui, il n'a pas trop le choix. Donc, tu vois, je me dis, Cadillac, au moins, il y aurait peut-être un gros contrat.
Après, de ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il est très fermé à l'idée de piloter contre Max Verstappen aussi. Parce que on imagine que Toto Wolff a aussi réfléchi à l'idée de rouler avec Max Verstappen et George Russell. Et de prêter Antonelli, notamment chez Alpine, il me semble. Donc, forcément, ils ont pensé à ça. Après, si ça ne s'est pas fait encore, c'est peut-être aussi que George Russell a simplement dit « non, moi c'est clair que je ne piloterai pas avec Max Verstappen à mes côtés ». Donc, ça reste au final assez tendu, mais encore une fois très intéressant. Et on n'a pas encore fait notre trêve estivale, même si la F1 n'a pas été présente pendant 3 semaines. Donc, il faudra suivre ça après le Grand Prix de Hongrie.
Alors, est-ce que George Russell est en position de dire « Non, je ne veux pas piloter à côté de Max Verstappen ».
Ouais, c'est ce que j'allais sûr, dire. En fait. Compliqué de sa part. Il y a un moment, si tu as un baquet en F1, quand même, il faut le prendre.
Et Mercedes, tu dis tu peux avoir en line-up Verstappen-Russell l'année prochaine. Bon, bah oui. Hein.
Et toi, Anne Fleur, avec ta vision peut-être un peu plus fan, de le voir partir de Red Bull, ça te crèverait le cœur ou finalement, toi, tu aimerais le voir aussi faire prendre un nouveau défi?
Ah, moi je suis fan de Verstappen, je ne supporte pas Red Bull, donc j'attends que ça qu'il parte. Honnêtement, d'accord, j'attends que ça, parce que comme a dit Tristan, pour le défi sportif, je veux qu'il ajoute son nom à la liste des pilotes qui ont gagné un championnat dans 2 écuries différentes. Il y en a très peu qui l'ont fait, je veux qu'il le fasse. Et pour rebondir un peu sur les propos de Russell, honnêtement, je pense que Russell, il n'a pas du tout la position pour dire je conduis pas à ses côtés. Je pense que Toto Wolff, il en a rien à faire aussi de ce que Russell peut penser. S'il peut avoir le line-up, enfin juste Verstappen, il le fera. Et si je peux donner un petit peu mon avis, je pense que Russell ne sera jamais champion du monde et que le champion du monde de Mercedes, si ce n'est pas Verstappen, ce sera Antonelli.
Toi, t'es en train de nous dire Russell, c'est une pipe.
Moi, je suis pas venu pour ce genre de violence aujourd'hui. Hein. Moi, je suis venu pour.
Anne Fleur, elle a dit c'est ma première. J'attrape Russell, je le démonte.
Je trouve que pour moi, il a pas l'étoffe d'un champion du monde et je ne le vois pas champion du monde. Alors après, l'avenir peut me donner tort et j'attends que ça. Mais je vois plus Antonelli avoir les épaules et le comportement d'un champion du monde qu'un Russell. Il fait, pardon du terme, hein, mais il fait un peu moins pleureuse, on va dire.
Ouais.
Toi, si Lando Norris peut être champion du monde, je crois que voilà, les cas d'étoffe.
Et moi, je pense pas que Lando Norris peut être champion du monde. Moi, je vois Piastri champion.
Justement.
J'adore les British. J'aime beaucoup Hamilton. Hein. Je veux pas avoir la communauté des Anglais sur le dos.
Ce qui est assez étonnant et ce qui est probablement aussi dur pour Toto Wolff dans son choix, c'est parce que pour moi, George Russell a montré qu'il était un grand leader d'écurie depuis 2 ans notamment. Et qu'il avait, en termes de niveau, il avait surpassé Lewis Hamilton dans la Mercedes. Ça, on était clairement d'accord. Et qu'en plus, dans ses déclarations, dans la façon dont il communiquait, alors c'est sûr que face à Hamilton qui partait, c'était plus facile, mais il a toujours soutenu l'écurie, il a toujours demandé plus à l'écurie dans un sens où il était proche de ses ingénieurs, proche de ses mécaniciens et toujours à essayer de tirer vers le haut. Et pour moi, dans la façon dont il pilote aujourd'hui, dont il construit ses week-ends, il a l'étoffe d'un grand. Donc je pense que c'est aussi pour ça que Toto Wolff a du mal à choisir entre Max Verstappen et George Russell, entre George Russell et Kimi Antonelli. J'aimerais pas être dans le cerveau de Toto Wolff, honnêtement.
Dites-moi, ce quand
personne.
La scène dans Drive to Survive, là, où ils partent en bateau, Toto Wolff et George Russell, c'est pas pour de la Sardaigne ? Tu sais, quand ils se tapent un peu dans la main, vous vous souvenez de cette scène là ?
Ah, pas trop, je t'avoue.
Je me demande,
Tristan.
Bah, alors, je sais que j'ai appris que Netflix crée de toutes pièces ce genre de situation et de scène. Donc, depuis, je ne
les pizzas
plus
avec Charles Leclerc, ça
voilà,
c'est bon ça.
Les pizzas avec... Alors, les pizzas avec Charles Leclerc, je sais pas, mais par exemple, l'appel de Kimi Antonelli quand il apprend qu'il est chez Mercedes, ça apparemment, ça a été totalement scripté par Netflix. Donc, c'est assez marrant à voir. Mais avec la réunion notamment avec Gaëtan Jégot où ils prennent la décision de faire ça, donc je ne sais pas si c'était en Sardaigne. C'est une excellente question.
On va enquêter.
Ouais. Moi, je regarderai aussi l'immatriculation du bateau au cas où.
Je vais reconnaître la côte. Ah,
Bon, on va ouvrir le scope un peu. On a parlé du potentiel avenir de Max Verstappen l'année prochaine. On va voir un peu globalement la grille, comment elle va évoluer finalement. On a encore quelques interrogations. Alors, la principale, pas forcément sur l'intérêt sportif dès l'année prochaine, mais on va dire sur toutes les inconnues qu'il y a. Moi, je trouve quand même que c'est un peu Cadillac, parce que bon, on n'a pas trop d'indices. Même eux, tu te demandes à chaque fois. On a l'impression qu'ils trustent aucun pilote qui court encore. Ils sont que sur des gars qui se sont fait virer récemment ou qui sont troisième pilote. On a également Racing Bull finalement où il va se passer des choses. On peut avoir Mercedes évidemment, le second baquet Red Bull et puis le second baquet Alpine qui lui aussi devient de plus en plus compliqué. Franchement, Alpine, on ne sait plus quoi dire hein, chaque semaine. Donc cette grille, elle peut être folle. Est-ce que vous attendez à des gros moves? Est-ce que vous attendez quelqu'un d'important, un pilote, on va dire un peu star, changer de baquet? Ou finalement, ça va être quelque chose sur des seconds baquets plutôt? Tristan, t'en penses quoi, toi?
Je pense que, enfin, en tout cas, dans la physionomie actuelle, c'est majoritairement des seconds baquets qui vont jouer. Après, honnêtement, je pense que ceux qui ont un peu les cartes en main aujourd'hui, à part Red Bull et Verstappen, c'est Cadillac. Quand ils vont commencer à annoncer leur premier pilote, à voir si justement ils vont prendre donc des troisième pilotes, des pilotes qui correspondent plus aussi au marché américain, parce qu'on sait à quel point. C'est important pour Cadillac quand il rentre dans la F1 de remplir cette case du marché américain, à voir à ce niveau-là. Après, moi, il y a quelque chose que j'attends beaucoup, c'est au final, c'est Alpine, parce que Alpine peut changer complètement la donne également. Est-ce que Gasly va rester? Parce qu'au final, il a un contrat, il devrait normalement rester jusque 2026 si on en comprend les termes, mais il peut aussi partir et lui aussi peut aussi. Par son départ, créer une chaise musicale, tout comme Lance Stroll, quoi.
Ouais, j'étais en train de me dire, imagine Christian Horner rachète Alpine et sa première décision, c'est dégager Sergio Pierre. Ah non.
Et il ramène Sergio. Ouais.
Arnaud, il dit des choses, moi je peux pas entendre ça comme ça, de vouloir ruiner l'avenir de Pierre comme ça.
Ah non, mais je le souhaite pas, mais.
Oui, mais tu l'as dit, c'est ça, moi ça me. Ça
Est-ce que ça te semble si farfelu que ça?
Tu vas apporter la guigne.
Non, peut-être que ouais, c'est ça le problème, c'est que je me dis qu'il y a un monde où ça peut voilà, arriver. Voilà.
Non mais la question c'est si Christian signe, Pierre part avant ou Christian le débauche d'abord? Bonne question.
Non mais alors la folie, c'est début 2026, tu as Gasly chez Red Bull et Horner chez Alpine. Oh. Et ça c'est beau.
Et la Alpine marche mieux que la Red Bull.
Et allez, ouais, alors là bon, on va peut-être quand même un peu loin.
C'est les vacances mais quand même.
Anne Fleur, sur la grille de 2026, toi tu as potentiellement des attentes ou tu as comment dire un red flag, tu te dis à part le fait que tu rêves que Verstappen quitte son écurie, est-ce que tu as d'autres attentes sur cette grille?
Mais moi j'attends la montée de Victor Martins.
Ah.
Je pleure tous les jours que Victor Martins ne soit toujours pas en Formule 1. Et d'un côté, je me dis, c'est toujours une circonstance, enfin un concours de circonstances. Il est plus dans l'écurie Alpine maintenant, il est chez Williams, mais il y a potentiellement un baquet chez Alpine qui est libre, et donc du coup, ça pourrait être sa porte d'entrée. Moi, j'attends Martins. C'est mon guess. J'aimerais que Stroll aussi parte, mais ça, ce sera pas possible. Mais moi, c'est Martins. Il me faut Martins en Formule 1.
Okay, que fait le papa de Victor Martins? Parce que
ouais, il faut qu'il rachète une écurie, voilà. C'est ça que t'as envie de dire.
Il rachète Aston Martin, quoi.
Ouais, 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 bah.
Oh, le rêve.
C'est vrai que nous, d'un point de vue un peu franchouillard, on aimerait bien, mais j'ai l'impression quand même que c'est un très très long shot là. Victor, il arrive peut-être pas, on va dire, à maturité au meilleur des moments, quoi.
Ceci dit, puisque
c'est le problème.
On parlait un peu d'Aston. Ok, Fernando est sous contrat, mais est-ce qu'il y a un moment, il va pas dire, moi j'en ai marre, enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Plus de 20 Grands Prix dans la saison pour faire ça?
Mais moi, il va attendre 2026.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Ça ne sert à rien de partir maintenant. Enfin.
Imagine, il voit les premiers essais hivernaux, il voit que c'est catastrophique.
Alors ça, c'est complètement Alonso compatible.
Oui. Ah oui. Pour ensuite aller faire du WEC, ça ne m'étonnerait même pas.
Mi-mars, il est dans un tracteur, il peut dégager. En revanche, je pense qu'il va quand même attendre.
Oui.
Il va attendre d'aller la tester aux essais et de se dire, bon, ça vaut peut-être le coup quand même de rester Tristan.
Bah, par contre, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les années précédentes, dans le marché des transferts, on a toujours parlé des jeunes pilotes. Au final, on se rend compte que cette année, la Formule, je ne sais pas si tout le monde regarde un peu la Formule 2, c'est très très dur, hein, le niveau des pilotes qui sont en Formule 2 actuellement. Il n'y a pas grand monde qui peut se dire ouais, moi j'ai largement le niveau pour aller en Formule 1, ou en tout cas j'ai déjà la maturité, parce qu'on sait que Arvid Lindblad notamment est présumé est dans les petits papiers de Red Bull, mais en même temps il a pas forcément la maturité, il a pas forcément le niveau. Pour revenir sur Victor Martins, je bosse pour Off Track et vous savez donc mon amour pour Victor Martins. Victor, il ne montre pas assez pour monter en Formule 1 actuellement. Et alors, il y a peut-être des concours de circonstances, il y a peut-être de la chance. Actuellement, il montre absolument rien qui laisse présager une arrivée en F1. En plus de ça, alors, il est arrivé dans l'Académie Williams, c'est bien, mais en même temps, l'Académie Williams, aujourd'hui, elle permet pas d'offrir un baquet, sauf si Carlos Sainz part. Et encore une fois, si Carlos Sainz part, moi, la première personne à qui je pense, c'est pas Victor Martins. Hein. Et même si je suis chez Williams, c'est pas Victor Martins.
Okay, j'ai regardé les derniers champions en Formule 2. Tu avais une période incroyable, j'ai le classement sous les yeux. Donc 2017, Leclerc, 2018, Russell. Et après, Nick De Vries, Mick Schumacher, 2021, Piastri, Drugovic, Porcher, Bortoletto.
Ah ouais, bah c'est quand même solide. C'est sûr que là, il y a peut-être un petit trou cette année.
Par contre, vous regardez la saison 2018 de Formule 2. Lando Norris, Alex Albon, il y a qui d'autre encore? Il y a Nicolas Latifi qui roule, mais il roulait bien à l'époque, il roulait vite. Il y a qui d'autre en 2018? Bon, au final, Nick De Vries, qui avait quand même un bon niveau, même si en 2019, il gagne le championnat. On a eu une génération dorée de jeunes pilotes qu'on voit en F1 actuellement et qui bouchent la grille aussi en F1 actuellement. Mais derrière, on ne voit pas forcément une relève de haut niveau. Et c'est ça que je voulais dire, parce que cette année, quand vous regardez les courses de Formule 3, vous regardez les courses de Formule 2, il faut être accroché, hein, parce que vous regardez que des safety cars.
Et puis, Anne-Fleur, on s'est peut-être aussi un petit peu habitué à ces dernières années à avoir un turnover et beaucoup de rookies arrivés. Et finalement, c'est pas tant la norme. Donc, c'est peut-être aussi un petit retour à la normale qu'il n'y ait pas de. Même si tu veux absolument que Victor vienne, et on est d'accord avec toi, qu'il y ait deux pilotes de F2 qui arrivent cette année, quoi.
Bah, en fait, le truc, c'est que le gros turnover, il s'est fait l'année dernière. Bah, il y a 2 ans, la grille était quasiment inchangée. Et pour revenir sur ce que Tristan disait, en fait, même s'ils prouvent rien, ils arrivent quand même en Formule 1. Quand on voit Doohan, quand on voit Colapinto, ils n'ont rien fait. Et pourtant, ils sont là. Même Berman. Voilà. Donc maintenant, en fait, il faut aussi se dire que malheureusement, il y a l'argent qui rentre en compte et que les pilotes deviennent payants. Et ça, malheureusement, c'est ce qui, pour moi, gâche vraiment l'essence du sport, mais qui a toujours été là. Donc je me dis, si en fait, maintenant, en ne faisant rien, on peut monter, il suffit peut-être juste qu'en fait, Martin, s'il a un coup de bol et il monte, et peut-être qu'il prouvera là-dedans, parce qu'en fait, le gap, il n'est pas si grand quand on voit Antonelli qui arrive très bien avec la Mercedes, quand on voit Isaac Hadjar qui fait en Formule 1, on se dit qu'en fait, peut-être que le gap entre la Formule 1 et la Formule 2, il n'est pas si grand.
Ah non, mais regarde les pilotes payants, là, c'était incroyable, c'est Hamilton chez Ferrari.
Ouais.
Non, je rigole, ouais. C'est une blague. Non, mais le turnover a eu lieu parce qu'il y a eu un espèce d'appel d'air, parce qu'on était aussi sur la dernière année de cette réglementation, donc on est au bout du développement des voitures, et on s'est dit, bon, autant amener nos jeunes déjà dans une écurie pour voir ce rythme aussi des courses en Formule 1, pour qu'ils apprennent, pour qu'en 2026, quand on remet à plat un certain nombre de choses, ils n'arrivent pas là comme des rookies.
Et puis pour compléter, pour éviter que je me fasse lyncher en place publique, pour moi, bien évidemment que Victor Martin, ça a par exemple une meilleure vitesse de pointe que certains.
T'as eu peur pour ton boulot, là.
Un petit peu.
Ouais.
Que Victor Martin, c'est bien évidemment plus rapide que par exemple un Jack Doohan. Pour moi, il n'y a pas de doute, parce qu'en F2, il était déjà plus rapide. Mais au bout d'un moment, il faut aussi avoir la capacité de, si on veut monter en F1 et que c'est bouché, se créer le baquet soi-même. C'est quelque chose que Oscar Piastri, au final, a réussi à se faire. Daniel Ricciardo, à l'époque, chez McLaren, c'est vrai que c'était pas exceptionnel. Mais quand même, ouais, il a réussi à se créer les opportunités. Il a gagné la F3 et la F2 l'année juste après. Mais voilà, c'est des choses où, pour moi, il manque encore. En tout cas, cette année, en F2, il n'y a personne qui a réellement le niveau pour arriver en F1, ou en tout cas, bousculer un pilote de F1 titulaire actuellement et lui dire, j'ai plus les crocs que toi et j'ai plus la maturité pour apporter plus de points que toi sur une saison de 24 courses.
Alors, petit tour de table comme tout à l'heure. Ouais, vas-y, Anne-Fleur, vas-y, finis.
Mais en fait, je me disais juste que, imaginons, on prend le truc de. Puis Gasly, du coup, monte chez Red Bull. Dans tous les cas, Colapinto ne sera pas reconduit. Lawson ne sera pas reconduit non plus. Tsunoda, ça m'étonnerait. Ou alors, du coup, il va passer chez Racing Bull. Donc, dans tous les cas, il va y avoir un baquet vacant, en fait. Donc, il peut très bien être pris par quelqu'un qui fait son entrée comme un grand et qui se crée son baquet. À voir. Ça reste mon petit rêve, pas très réalisable et très peu objectif. Mais je me dis qu'en fait, avec des mouvements comme Hamilton chez Ferrari, maintenant plus rien ne me surprendrait en fait dans la Formule 1. Donc, quitte, autant rêver en fait.
Après, ceci dit, si le deuxième baquet chez Red Bull, il se tortille un peu les neurones pour savoir qui mettre, il y a Isaac Hadjar en fait. Oui. Là, on dit pas en cours de saison dans ce contexte-là, mais si tu dois sortir un nom parmi tous ces pilotes sous contrat chez Red Bull, et en plus, le docteur Marco adore Isaac.
Ouais, ouais, mais oui. Après, mettre un jeune dans un top team avec une nouvelle réglementation, moi, je reste quand même assez fébrile sur ce point-là. Mm-hmm. Ça va lui prendre du temps avant de... Enfin, ou alors, peut-être pas, il va peut-être me faire mentir, mais c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui monte. C'est peut-être parce que c'est une nouvelle réglementation et qu'on veut des certitudes avec des pilotes qui ont déjà beaucoup d'expérience.
Ouais, on le voit justement pour en revenir. La boucle est bouclée, bravo Tristan, avec les choix qu'on entend sur Cadillac. Finalement, ils veulent de l'expérience.
Regarde Audi
avant tout.
Qui signe et de Hülkenberg.
Exactement, à Audi, pareil.
À Audi.
Ouais, je le dis.
Petite référence à Alex.
Exactement. Bon, on va attaquer quand même parce que c'est un warm-up, les amis. On était le closer de la F1. Depuis 35 minutes. Il y a une moto qui passe chez Anne Fleur, c'est ça? Non.
C'est un V10.
C'est un V10. Puisque vous pouvez même entendre les cigales.
Et c'est Christian Horner qui vient d'arriver chez Anne Fleur.
En direct depuis chez Anne Fleur, un peu de soleil, c'est l'été évidemment. On va du coup attaquer, puisque c'est un warm-up, c'est le Grand Prix du week-end et le fameux circuit de Spa, mythique évidemment pour l'enchaînement Eau Rouge, le Raidillon. Mais mythique finalement pour quasiment tous ses virages et pour sa pluie aussi.
Et pour Arnaud. Tous ses départs mythiques.
Oui.
J'ai revu des images.
98, le fameux carambolage 98, monumental.
98, ouais, et Michael Schumacher qui va dans le garage McLaren. J'ai revu l'image là, j'étais mort de rire.
Ah, c'est toujours.
On a revu aussi, c'est 2012 avec Romain Grosjean.
Ah oui, qui décolle. Une pénalité qui se fait suspendre.
Une course.
Ouais. Parce qu'il. C'est dans Hamilton qui termine et puis après il prend Fernando Alonso à la soin
de Ferrari. Et il n'y avait pas les halos à l'époque.
Ah non.
Il y a aussi pour la génération, dirons-nous, de nos parents à peu près, le dépassement à trois de front au fond de Kemmel, je crois.
Oui, avec Schumacher et Hakkinen avec la célèbre image où Hakkinen explique, non c'est Schumacher ou Hakkinen qui explique son dépassement à l'autre, enfin exceptionnel.
Ouais, exceptionnel avec Esteban qui avait reproduit un ersatz de ça il y a 2-3 ans aussi avec un très beau dépassement de la sorte. Toujours plein de choses qui se passent. Anne Fleur, la dernière fois dans le dernier épisode, on était un peu unanime pour dire que c'était un de nos préférés et pour parler personnellement mon préféré. Est-ce que toi aussi c'est un circuit que t'apprécies?
Top 5, facile.
Top 5. Top 5 et pas 5e, comme disent les jeunes.
Après, il y aura son préféré le week-end prochain avec le Grand Prix de Hongrie. Hein.
Ne critiquez pas tant que ça. Moi, j'aime bien aussi le on en reparlera.
Il y a des haters du Hungaroring.
Ouais, moi, je l'aime beaucoup. Vous êtes pur, hein. Ouais, j'aime beaucoup.
Depuis qu'Esteban a gagné, ça. Ouais.
Ou que Lando casse les trophées, il y a toujours un petit truc, tu vois, ça se passe. Ouais, donc Anne Fleur, top 5. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît là-bas? Peut-être parle-nous d'un souvenir et puis de ce que t'attends aussi de voir ce week-end sur ce circuit.
Bah alors, moi, j'ai commencé la Formule 1 en 2016-2017. Donc, les souvenirs sont un peu frais. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'accident de Norris en haut du Raidillon pendant les qualifications.
Ah ouais?
Ouais, ça m'avait vraiment marqué parce que du coup, c'était quelques années après Antoine Hubert. Mmh. Et ça m'avait vachement marqué. Après, moi, j'adore ce circuit parce que justement, en fait, j'adore entendre les pilotes en parler.
Oui.
Et de savoir en fait que pour eux, ils doivent passer pied plancher justement le Raidillon, que s'il y a plein de virages qu'ils adorent et tout ça. Moi, c'est quelque chose que j'adore et je sais que les Belges aussi, il y a une belle ferveur de nationalité et d'amour du sport qu'on retrouve pour moi qu'en Italie.
Bon, t'as surtout des Néerlandais qui viennent en ce moment. Hein.
Ouais, bah oui, bah oui.
Et mais ça me va, il y a des
Français
des
depuis qu'il n'y a plus le Grand Prix de France.
Exactement.
Et ça, c'est une réalité. Parce que c'est vrai que autant dans mon entourage, j'avais pas grand monde qui était allé voir Spa finalement. Et depuis que le Castellet n'est plus là, chaque année, il y a des gens, ouais, je pars à Spa, tout. Et bon, chaque année, je leur dis, prenez un poncho quand même, les amis, parce que vous allez passer.
Et des bottes.
Et cette année, on annonce un peu de pluie, hein.
Ah bon?
Bah, il pleut déjà, hein.
Quelle surprise!
Et puis quelle transition sur la météo du week-end!
Non, bah, la météo du week-end, tu veux la faire, notre Evelyne Delia du paddock?
Alors, ça va être vendredi, nuageux,
ouais.
Avec un risque de pluie estimé à 30% par Météo France.
D'accord.
Mais c'est météo Belgique, là, hein.
Ouais, mais à la FIA, c'est météo France aussi. Samedi, beau temps, mais avec un risque de pluie de 0% à première vue. Okay. Donc, on devrait avoir un week-end de sprint avec la sprint qui se passe sur beau temps. Par contre, dimanche, c'est là où ça se corse et où apparemment il devrait pleuvoir le matin, pas forcément l'après-midi. Mais encore une fois, et j'aime le rappeler, Spa, en 10 minutes, on peut passer de la grêle à le sud de la France. Donc vraiment, ça va être un week-end encore une fois très très intéressant à suivre.
Excuse-moi, il te manque un paramètre.
Oula.
Les températures.
Oh. Ah oui, j'ai pas les températures, effectivement.
Ah bah dimanche, 12 degrés minimum, 17 degrés maximum.
Ouf. Il va falloir chauffer les gars.
Non mais puis avec la pluie, avec la pluie.
Avec des inters
à chauffer. Oh là là.
Oh là, c'est Colapinto, ça va être trop bien. Il va pas tenir trois virages.
Il va finir à Liège.
Non, mais après, ceci dit, attention, parce que ça reste un circuit très dangereux, évidemment, avec le Raidillon. T'as parlé d'Antoine Hubert, Anne Fleur. Donc, voilà, il va falloir quand même être vigilant, même si ils ont un petit peu refait. Voilà.
De toute façon, ce virage dans l'histoire, il a passé son temps à être refait. On a eu même l'époque. Vous irez voir les plus jeunes où on a carrément tenté une espèce de virage, oui. Vraiment comme à une montée de col, puisque c'est le Tour de France.
Début, c'était comme ça en fait, ouais. C'est pour ça.
Et ensuite, on est revenu quand même à quelque chose d'un peu plus agressif. Et puis la vraie différence entre les pilotes plus anciens et les nouveaux, ils te diront, c'est qu'il est toujours impressionnant, il est toujours mythique, mais il a perdu, on va dire, une partie de son charme, parce que maintenant normalement t'es flat out sans trop de problèmes, alors qu'avant flat out c'était pour ceux qui étaient bien assis dans leur voiture ce jour-là.
Il y a forcément cette anecdote de Jacques Villeneuve en plus, alors je saurais plus vous dire exactement quelle année, qui avec son coéquipier en début d'essai libre, qui parie l'un contre l'autre, le premier qui passe à fond, voilà. C'est le papa. On va éviter de dire des gros mots. Et où au final, Jacques Villeneuve se torpille dans le mur, ouais. En haut du Raidillon, et il aurait pu se faire très mal. Et c'est ça aussi la Formule 1, c'est ça qui est très marrant, c'est que parfois il faut quand même débrancher un petit neurone dans le cerveau pour pouvoir faire le tour.
Et puis on a après Blanchimont aussi cette grosse chicane, l'arrêt de bus qui est aussi très compliqué, dans lequel on voit pas mal de dépassements. On a ensuite le premier virage, la source, qui est pareil, une espèce d'épingle, goulet d'étranglement dans lequel se jettent les 20 pilotes. Et donc on en avait parlé souvent, ça se termine mal. Il y a au moins la moitié des pilotes qui sortent sur le premier virage, et quand il y en a qui ne se touchent pas, c'est aussi un miracle. On a l'enchaînement dans la forêt qui est magnifique, avec les virages de Pouhon et les chicanes de Fagne. C'est quand même ça aussi, les circuits européens. Je veux pas faire le vieux con, mais quel plaisir aussi d'avoir comment il s'appelle notre ami qui fait tous les circuits nouveaux là,
Tilke,
merci. Ça fait plaisir d'avoir des vrais circuits et pas des Tilke circuits quoi,
qui respire pour ça, tu vois. Et on est content, voilà, Spa va rester, même s'il y aura une impasse, c'est 2028-2030, je crois. Ouais. Là, on est encore, c'est bon pour 26 et 27, Spa-Francorchamps au programme. Oui, c'est tous ces circuits atypiques, tu vois. Par exemple, Zandvoort, j'étais tellement content qu'ils reviennent, entre le vent, le banking, voilà, voir Max Verstappen
chez... Du sable sur la piste.
Du sable sur la piste, voir Max chez lui, vraiment. C'est ces histoires que tu as envie de voir, pas tous ces circuits. Alors, je veux bien qu'économiquement, au Moyen-Orient, faut y aller, mais il n'y a aucune histoire, il n'y a rien, etc. Moi, pour ce week-end, j'attends Ferrari. Parce qu'ils sont censés avoir apporté des développements majeurs. Donc, comment... avec deux pilotes extrêmement expérimentés, doués sur la pluie, qui va être un paramètre important, est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher de la performance ? Parce qu'il y a besoin, et j'ai envie de te dire, même s'il y a ce paramètre pluie, donc il va y avoir des faits de course et des incidents de course assez nombreux, c'est maintenant ou jamais. Est-ce qu'ils vont enfin avoir une voiture à peu près performante ? Les McLaren, ça leur a réussi pas des masses, hein, les derniers Grands Prix à Spa. Alors, ils n'avaient pas forcément aussi la même domination de voiture, hein, en 2023, mais 2024, j'ai regardé les résultats, c'était pas fou. Max, on sait qu'il va pouvoir optimiser, et visiblement, ils ont réduit un petit peu l'appui, de ce que j'ai lu.
Ah, donc, la pluie. J'avais compris, ils ont réduit la pluie. J'ai
dit, non, la pluie.
Comment ils ont fait ?
Ils vont faire
downforce. J'ai lu allow downforce.
Okay. Non, mais et puis de toute façon aussi sur ce circuit, c'est là qui est impressionnant aussi. Bon, on parle beaucoup du Tour de France en ce moment. On est obligé de parler du dénivelé sur le circuit. Francorchamps, vous avez 100 mètres de dénivelé positif et 100 mètres de dénivelé négatif sur un tour de 7 km et 4 mètres. C'est absolument incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller sur circuit, mais quand vous avez l'occasion d'aller sur circuit, vous mettez même côté spectateur, hein, pas besoin d'aller sur la piste, en bas du raidillon, c'est un mur. C'est 40 mètres à 17%, c'est un mur. Pareil, vous sortez de l'épingle de Bruxelles, vous arrivez à la sortie de l'épingle de Bruxelles sur le virage à gauche, je n'ai plus exactement son nom, vous voyez le premier virage, vous voyez la source. Ce circuit est absolument magnifique et offre aussi des choix aérodynamiques différents. On voit souvent des ailerons à Spa, proches des ailerons de Monza, parce qu'en fait, il y a besoin de tellement de vitesse de pointe sur ce circuit.
Quand tu montes après le raidillon, la ligne droite jusqu'au combe,
la ligne droite de Kemmel qui fait un kilomètre, il faut avoir de la vitesse.
Si tu rates, la source ou ton raidillon,
c'est Oscar Piastri qui expliquait ça, je crois. Il est extrêmement important le virage de la source, parce que si tu rates ton virage de la source, pendant 30 secondes, tu vas réfléchir à comment tu as raté ton virage de la source, parce que tu ne lâches pas à aucun moment. Et donc, en fait, ça te reste dans la tête. Non, mais on va voir probablement un même aileron qu'on a vu à Silverstone pour Max Verstappen. Faudra pas espérer de pluie parce que ça lui avait pas forcément bien réussi.
Après, là, ils ont une chance. C'est cette année, c'est que pour monter le raidillon, il n'y a pas Pogacar.
Ouais, il l'aurait monté.
Et il n'y a pas de voiture jaune.
Anne Fleur, est-ce que tu es d'accord avec Arnaud sur toi, qu'est-ce que tu attends de ce Grand Prix? Est-ce que c'est aussi Ferrari ou tu as d'autres attentes au niveau des écuries?
Moi, en vrai, je reste toujours sur mes positions, mais j'attends une nouvelle victoire de Verstappen et j'attends une confirmation d'Esteban Ocon. Je sais qu'il est très bon sous la pluie et j'adore le voir conduire sous la pluie, donc j'aimerais vraiment qu'il y ait un bon résultat et j'aimerais potentiellement voir également les stakes. C'est un peu des hot takes, mais j'aimerais bien voir Hülkenberg aussi confirmer un peu son podium, qu'on reste un peu dans cette belle histoire pour lui. Donc j'attends aussi un peu de Norris. J'attends de Norris qu'il prenne le lead du championnat parce qu'il est censé le prendre au vu de l'ancienneté et tout ça, même si je veux que Piastri se défende. J'aimerais avoir une vraie bataille des McLaren également sur ce circuit.
Tiens, en parlant de ça, Tristan, toi, tu le sens comment notre Lando Norris là? Parce que chaque semaine, lui c'est comme Spa, c'est les montagnes russes.
Lando Norris, c'est son deuxième Grand Prix à domicile. C'est sa maman qui est belge, hein, oui, c'est comme Max Verstappen, donc va y avoir du orange dans les tribunes. À voir si ça va faire pareil que Max Verstappen. Non, Lando Norris, on l'attend aussi un peu au tournant parce qu'il y a eu cette pause, il y a eu ce petit repos mental, on va dire, pour tous les pilotes. Donc ça remet les cartes un petit peu à zéro. On sait à quel point ils sont proches au championnat. Il y a 8 points qui les séparent, il me semble. Donc vraiment, ça va être très intéressant. Moi, j'attends beaucoup de... On parlait de Ferrari, j'attends beaucoup de Charles Leclerc parce que ça fait partie des pilotes où on sait qu'il y a des circuits où il est vraiment pas très bon. Miami, je prends l'exemple, il a jamais été excellent, mais par contre Spa, il a toujours eu un rythme assez exceptionnel sur ce circuit. Donc c'est vrai que s'il pleut pas, j'en attends beaucoup des Ferrari avec cette nouvelle suspension et ouais, pareil, Lewis Hamilton, c'est aussi un petit peu son jardin, ce circuit de Spa.
Qui a dit qu'il ne se voyait pas ne pas être champion du monde avec Ferrari.
Ça, c'est, je lui conseille quand même d'envisager là.
Il voulait pas faire comme
MVP. I refuse to not be world champion at Ferrari.
Oh my goodness.
Mais après, il dit quand même souvent des dingueries, Lewis. Il a aussi dit que quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il avait pensé de l'éviction de Dorner, il a dit, moi, vous savez, quand je suis pas dans les week-ends de Grand Prix, à part ce qui concerne Ferrari, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'a rien fait.
Je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise
situation. J'ai envie de le dire, franchement, mon gars.
Il est obligé de dire ça, parce que t'es chez Ferrari, tu viens quand même pour...
Lui-même, mentalement, il n'a pas signé pour ne pas être champion du monde chez Ferrari. Lui, c'est ce pourquoi il a signé. Il veut atteindre ce rêve-là, lui. C'est pour ça, c'est ce qu'il fait se lever le matin. De
toute façon, on sent bien qu'il y a quand même une espèce de... Voilà, on est en pause, on a dit pouce. Comme les enfants, tous les pilotes qui ont un baquet, on va dire, correct avec une écurie qui peut leur permettre l'année prochaine d'être bien avec cette nouvelle réglementation. On sent bien que là, on est un peu dans les spectatives. On va rester au chaud dans son baquet. On va voir ce que ça donne.
Elle va être longue cette fin de saison.
Ouais, je pense aussi qu'elle va être longue. Et comme le disait Anne Fleur, ce qui peut nous tenir en haleine et ce qui est très important, c'est ce duel McLaren justement. Parce que si, imaginez que là, Norris, sur ces deux derniers trucs, il soit vraiment effondré. Et que Piastri avait aujourd'hui 40 points d'avance, là on serait embêté, même nous, pour tenir à la fin de la saison. Alors que là, quand même, il se passe des choses à
peu
près.
Donc il y a un peu de drama, c'est ça.
Bah oui.
Sinon... Et Zach Brown dire mais non, on les laisse. se battre en piste.
Mais tu veux pas te reconvertir complètement dans l'imitation?
Non, mais... J'essayais pas des Zach Brown.
Et Zach Brown, il a pas mâché ses mots, hein, parce qu'il a dit que le départ de Christian Horner, il était pas étonné. Voilà, ouais. On sait que les deux ne s'aiment pas du tout. Hein.
Oui, je pense que surtout, il disait pas
il
étonné.
Il était pas étonné.
Qui aimait Christian Horner?
Mais qui trouvait le
non,
timing.
Ah, si, ouais, si, ouais.
Il était pas étonné, mais qui trouvait le timing étonnant. Voilà, mais en tout cas, pas étonné. Hein. Vraiment, pour lui, c'est un petit bonheur que Christian soit parti.
Bon, et alors les Français ce week-end, Anne Fleur, tu vois un Français briller quand même, fais-nous plaisir là, parce qu'Arnaud, il nous détruit tous nos Français là.
moi, personnellement, je vois un très bon Grand Prix pour Isaac, et je pense qu'on peut avoir une belle surprise d'Esteban Ocon, parce qu'il nous l'a montré sous la pluie, il fait toujours des dingueries. Donc moi, j'attends Esteban et Isaac au tournant.
Tristan.
Isaac, petit coup de moins bien, donc on l'attend aussi un petit peu au tournant là pour la reprise. On attend qu'il retrouve le rythme qu'il avait avant, hein, rien de spécial. Esteban, on sait que Spa il aime beaucoup aussi. Je me souviens de ses performances avec sa voiture rose de chez Force India et où il nous avait offert pas mal de dépassements sympas et notamment ce départ en 2018 à 4 de front avec Hamilton, Vettel, Perez. Et Ocon.
Tu parles d'Isaac. Est-ce que tout à l'heure on parlait du départ de Laurent Méquies en disant qu'à l'avenir ça pourrait être une bonne chose si un Français arrivait chez Red Bull. Est-ce que finalement lui, son départ de Racing Bull peut mettre, pas en danger, mais créer des difficultés, faire perdre un peu de confiance à Isaac?
Moi, je pense pas que ça va lui faire perdre de la confiance. C'est bien que ce soit arrivé à ce moment-là parce qu'il s'est déjà bien intégré à l'équipe, je pense. Pareil, Liam Lawson, ça fait plusieurs moi désormais qu'il est retourné chez Racing Bulls, donc ils ont un duo de pilotes qui fonctionne très bien, ils connaissent la voiture, ils savent comment la faire fonctionner, ça va pas chambouler leur saison. Après Isaac, on l'a vu et il a lui-même admis, il a eu un petit coup de moins bien, notamment à Silverstone et le Grand Prix juste avant en Autriche, c'est ça? Oui,
Autriche,
ouais, où il était un petit peu moins bien. Voilà, on espère juste qu'il va retrouver au moins être dans le rythme de son coéquipier ce week-end pour simplement remettre les pendules à l'heure.
Après, vous citez les Français qui scorent pas trop en ce moment. Pierre, il a fait 6e à Silverstone, Gasly. Donc moi, je trouve qu'il est quand même sur un bon momentum et coûte à voir. Hein,
on sait que c'est un circuit spécial pour lui, en particulier depuis 2019, avec la perte de son ami ancien colocataire Antoine Hubert. Donc c'est toujours un circuit. C'est aussi, c'était le même week-end, le circuit un peu de sa rédemption, de sa renaissance, je sais pas comment appeler ça, mais ce fameux Grand Prix où il a un week-end horrible, il perd son ami et il vient de perdre son baquet. Ça doit être des heures très sombres dans son cerveau. Il fait un week-end hyper solide. Et derrière, il lance sa fin de saison pour arriver jusqu'au podium du Brésil et finalement relancer sa carrière qui aurait pu finir un peu à la Daniil Ricciardo, ou potentiellement, et peut-être, on aurait pu perdre Pierre Gasly. Ocon, on va dire, pour Anne-Fleur Tristan, Gasly pour Arnaud. On verra qui a raison, les amis, on verra qui a raison. On arrive au dernier thème, le thème habituel du warm-up, tout simplement un prono. Alors vous allez me faire le poleman et le podium du lendemain, Anne Fleur.
Il y a pas le sprint?
Ouais, il y a pas le sprint, c'est ce que j'avais demandé.
Ouais, mais ça là, c'est que là, moi je veux bien vous lancer dessus, mais c'est que vous allez commencer à avoir à galérer.
Vainqueur sprint, okay. Poleman qualification et vainqueur du Grand Prix, top 3 du Grand Prix.
Allez, c'est vendu. Il en reste un peu, je vous le mets quand même, Anne Fleur.
Alors, vainqueur sprint, Charles Leclerc. Poleman de la course, Piastri. Et le top 3, je dirais Verstappen, Piastri, Norris.
Ok. Tristan.
Vainqueur du sprint, Max Verstappen, avec un choix aérodynamique extrême. En qualif, une pole, bien évidemment, de Lewis Hamilton.
Ok.
Parce que la Ferrari marche beaucoup mieux. Et après, victoire de Charles Leclerc, Lando Norris et Oscar Piastri sur le podium.
Oh là là, mais alors Charles Leclerc qui sort deux fois.
Ah, c'est son week-end
ça,
là, moi je vous le dis, c'est son week-end.
Ah ouais, week-end. Arnaud.
Vainqueur du sprint, Oscar Piastri.
Ok.
Poleman.
Oscar Piastri.
Max Verstappen.
Ok.
Troisième du Grand Prix, Charles Leclerc. Deuxième, Lando Norris. Premier, Lewis Hamilton.
Oh,
le doublé Ferrari.
Oh, le podium Ferrari.
Bon, bah, les amis, moi, je ne dis rien parce qu'en fait, ça me plaît tout ça.
Moi, je vote.
Je suis chaud pour vos trucs. En régie, on a notre réalisateur Toto qui me dit Alonso,
Ah mais il Toto est... il est resté dans les années, oui. les années 2000.
Faut savoir que Toto est, un, est peut-être le plus grand fan de Fernando Alonso sur Terre. Il veut voir Alonso gagner tout le temps et c'est pour ça qu'il devient un peu aigri parce qu'il ne l'a pas vu gagner depuis des années.
Vraiment, t'as quand la dernière victoire de Fernando
Là, franchement, tu me prends de court. 2013. Ça doit être en, ça doit être chez
Ferrari.
Fefe,
hein. Hein.
Ça doit être chez
Valence, 2013.
Peut-être Valence.
Écoute-le, l'encyclopédie, là. Il est pas chez Off Track pour rien, celui-là.
il me semble que c'est ça. Espagne 2013. Je sais plus si c'est. Ouais, c'est... ça doit être Valence. Oui.
À la maison, je crois à que c'était maison, ça, ouais. son dernier Grand Prix gagné. Bon, on s'attend quand même à de belles choses, mais. McLaren, moi j'ai quand même peur qu'il nous torpille tout ça, Tristan.
Ah, s'il y a bien un circuit où je pense que ça peut changer notamment, bah, c'est Spa, parce qu'il y a tellement de différences. Le moteur joue une part importante. On va aussi voir à quel point le moteur horrible produit par Viry Châtillon de l'Alpine va marcher ce week-end. Mais honnêtement, c'est un circuit qui offre beaucoup de différences dans les changements de vitesse. On a des virages lents, on a des virages rapides, on a des virages qui se passent à fond, on a besoin du moteur. Et en même temps, c'est un circuit qui est tellement long que la différence que le pilote peut faire est énorme. Parce que c'est 7 km, donc sur 7 km, si vous voulez prendre la pole ou si vous voulez gagner un Grand Prix, il faut être irréprochable sur 7 km. Et c'est là aussi où les différences peuvent se faire. Et c'est là aussi où on va voir les meilleurs pilotes en action, entre guillemets. Et après, la machine... elle va faire le reste du job. Mais...
ça fait environ 2 km de plus que, on va dire, une distance moyenne de circuit, oui, qui tourne souvent autour de 5 km. Et ben le drapeau à damier du warm-up est en train
d'être
agité.
Barcelone 2013.
Ah, pas mal. Espagne, mais pas Valence.
Ouais. T'étais à 1h30 de route. Pas mal, pas mal.
Mais... t'es sur la bonne côte.
Sur la route des vacances.
Voilà, on agite le drapeau à damier du warm-up. Les amis, Anne Fleur et messieurs, merci à vous. Merci beaucoup, Anne Fleur. Cette première, ça s'est bien passé?
Bah, j'espère, vous m'en direz des nouvelles.
Excellent, bien mieux qu'Isaac en Australie par exemple.
Ah,
t'as
bah
réussi
merci,
ton départ,
ça,
pas dur, pas dur. T'as réussi ton départ et tu as même réussi.
C'est moi la mauvaise langue.
Tu as même réussi l'arrivée, les gars. Merci également à vous. Et puis, vous savez que vous allez retrouver Arnaud Valadon à la présentation ce lundi.
Oh là,
et
non,
oui, je spoil. Et là, ça va imiter du Toto Wolff en pagaille, les amis. Ça
ou
va
de l'accent belge,
plaisir.
Ça dépend.
Vous reviendrez sur vos pronos. J'espère que l'un de vous aura eu raison parce que franchement, c'est alléchant ce que vous nous avez proposé aujourd'hui. Vous retrouvez donc toute l'équipe ce lundi. Mais avant ça, vous pouvez aussi retrouver notre page Insta et TikTok RMC Formule 1 où vous pouvez voir récemment quelques vidéos avec par exemple Séraphin Bette qui n'est pas là aujourd'hui ou votre serviteur ou encore Nico Paolorsi qu'on a presque oublié.
Ah oui.
Notre ami
comme
Nico.
Christian Horner, lui il est out.
Ouais, mais lui vous inquiétez pas, il va revenir pleine balle, lancé comme un frelon très bientôt. Évidemment, on a une pensée émue pour Antoine Hubert et ses proches puisque ce Grand Prix c'est le sien, on ne l'oublie pas jamais. On se retrouve pour le débrief donc avec Arnaud ce lundi à la présentation parce que pour moi c'est déjà le summer break, je mets la caravane sur la boule. Allez, ciao tout le monde, n'est pas Racing Kill.
Le paddock RMC.